Vous écoutez l'émission Autour du Livre avec Annick sur RTVFM.
Bonsoir et bienvenue, chers auditeurs et auditrices, dans cette émission Autour du Livre. Une émission que vous pouvez écouter tous les deuxièmes mercredis du mois de 20h à 21h sur le 102.2. Ce mois d'avril 2019, je vais vous proposer une rétrospective 2014-2018. Donc ça va être des extraits d'interviews de différents auteurs, hommes, femmes, que vous pourrez retrouver en entier bien sûr dans les podcasts sur notre site web www.rtvfm.net. Donc dans émissions et après donc dans Autour du Livre. J'ai choisi de vous faire réécouter donc Hélène Cabassi, éditrice, Annick Bessac, auteur, Gilbert Lèbre aussi, auteur de livres et de musique, Brigitte Bangean, auteur, Abraham Lancry, auteur aussi. Et je terminerai donc cette émission avec Nadia Bergougnou, qui est auteure elle aussi de plusieurs ouvrages, ainsi qu'organisatrice d'un salon du livre à Morières-les-Avignon, donc son sixième salon a vu le jour en 2018. Alors ces interviews vont être accompagnées de musique avec Patrick Licazal à l'accordéon et Simon Depis à la guitare électrique. Donc tous deux nous viennent de l'île sur la Sorgue. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très très bonne écoute. On se retrouve tout à l'heure en fin d'émission. Une écrivaine, Annick Bessac, et son éditrice, Hélène Cabassi. Donc, vous l'avez compris, ce soir, il n'y aura pas un thème particulier, mais plutôt la rencontre entre une auteure et une éditrice, et la découverte de ces deux univers qui, bon, ben, l'un sans l'autre, ne pourraient prendre forme. Alors, je me tourne vers Hélène Cabassi, qui est avec nous autour de la table dans nos studios. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Annick.
Voilà, alors Hélène, vous êtes éditrice à Carpentras et vous vous intéressez aussi aux écrivains de la Calédonie. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du parcours qui vous a amené à créer une maison d'édition ?
Eh bien, je suis effectivement installée à Carpentras, plus précisément au Hameau de Serres, justement. Le parcours, disons que c'est un petit peu le hasard qui m'a amenée à créer cette maison d'édition. J'ai longuement travaillé dans la presse et l'édition quand je vivais en Nouvelle-Calédonie. Et quand je suis revenue en métropole, j'ai retrouvé un vieil ami, Gilles Bontoux, qui avait un livre qu'il avait écrit. Il me l'avait prêté, c'était Absinthe, l'histoire d'amour entre Rimbaud et Verlaine. J'ai mis du temps à le lire et quand je l'ai lu, j'ai dit « mais il faut que ce livre soit connu, il faut vraiment que tu le proposes à un éditeur ». Il a fait des démarches auprès de grandes maisons d'édition sans succès, il n'a pas insisté. Donc il se faisait, lui, ses petits livres, il fabriquait le papier, il imprimait, il reliait. Et étant donné que je pensais avoir toutes les capacités techniques pour fabriquer un livre, j'ai dit « bah, écoute ton livre, je vais te le faire ». Et je me suis lancée comme ça, mais vraiment sur un coup de tête. Coup de tête et coup de cœur, comme d'habitude.
Alors, et depuis combien de temps vous avez créé cette maison d'édition ?
Ça fait 3 ans et demi maintenant.
Alors, vous l'avez appelé Noir ou Blanc ? Noir ou Blanc, pourquoi vous avez choisi ce nom ?
Quand Gilles faisait ses petits livres qu'il fabriquait lui-même, il avait marqué Noir sur Blanc. J'ai dit pourquoi pas, je trouvais que c'était très amusant parce que Gilles est toujours habillé en noir et ça m'énerve un peu. Pour l'embêter, je m'habillais toujours en blanc. Mais Noir sur Blanc, c'était déjà pris comme maison d'édition, donc j'ai pris le Noir au Blanc, qui est une technique d'imprimerie, et puis c'est très intéressant pour moi symboliquement, tout ce qui va du noir au blanc, voilà, toutes les nuances possibles, ça me plaît, donc je suis partie sur cette idée-là, voilà.
Alors, combien d'ouvrages à votre actif ?
Une vingtaine.
Une vingtaine, c'est déjà pas mal.
J'étais partie pour en faire que 4 par an, mais j'y arrive pas, il arrive toujours de bons manuscrits, je résiste pas.
Et oui, alors justement, comment est-ce que vous choisissez les livres que vous éditez ?
Donc au début, il y avait Gilles, mais il n'était pas le seul. J'avais un autre ami qui avait écrit des polars vraiment bien. Bon, ça n'a pas abouti avec lui. J'avais également une auteure calédonienne, Claudine Jacques, que j'avais envie de faire connaître ici. Par la suite, mais enfin maintenant, les manuscrits viennent vers moi. Je vais dans des salons, les gens viennent me rencontrer, ils me les envoient par la poste, ils me téléphonent. Donc voilà, j'ai plus qu'à choisir, ce qui est difficile.
Ah oui, donc c'est beaucoup plus difficile. Il y a un petit comité de lecture, vous êtes nombreux.
Je suis la première lectrice, lectrice lambda. Moi, je suis très, très à l'affectif. Voilà, j'essaie de faire abstraction de mon métier. Je prends pas de crayon rouge quand je lis un manuscrit. Je lis, voilà. Et si ça me plaît, je fais passer au comité de lecture. C'est 7 ou 8 personnes très, très, très différentes les unes des autres. Mais c'est vrai que je retiens quasiment, il me faut quasiment l'unanimité pour qu'un livre passe.
Et vous, personnellement, donc vos lectures favorites ?
Oh, moi, c'est clair, c'est le polar que j'aime.
Ah, d'accord. Donc, Annick Bessac.
Oui.
Et dans les polars, quels autres auteurs vous avez
Soit dit en passant, Annick Bessac, donc là, elle vient de finir le troisième. Je dis, la prochaine fois, je veux que ce soit encore plus sanglant. Je lui demande,
ah, oui.
Plus dur.
Mais vous...
Ça,
oui.
Elle est dans le suspense, elle n'est pas dans le thriller. Moi j'aime bien les thrillers.
Oui. Et est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de son troisième livre ? Parce que là, elle est un petit peu à l'honneur dans cette soirée.
Eh bien, tout à fait. Je l'ai eu hier uniquement. Donc, je l'ai commencé hier soir.
Ah,
voilà.
C'est tout
frais, il me tarde de le terminer. Et là, c'est la plus belle partie de mon métier. Quand je reçois un manuscrit comme ça que j'attendais, le deuxième livre, ça fait très peur. Quand elle m'a amené le deuxième, pas seulement elle, Laura Bogas et Micheline Verger, c'était pareil. J'ai peur parce que je me dis, et si c'est moins bon que le premier? Et si je veux pas l'éditer, comment je vais le lui dire? Ça a très bien fonctionné pour le deuxième d'Annick. Et pour le troisième aussi. Ah. Je peux la rassurer tout de suite. Je ne suis pas déçue. Maintenant, je pense qu'elle a fait ses preuves. Elle a vraiment son lectorat. Par contre, je ne peux pas en parler davantage puisque je ne l'ai pas terminé. Simplement, elle travaille des techniques d'écriture un petit peu différentes de livre en livre, voilà. Donc, c'est à vous de voir, vous verrez. Ce sera sorti en janvier, en principe, il sera sorti parce qu'elle sera à la fête de la truffe à Pernes. Je crois que c'est le 24 janvier, il me semble. Voilà.
Très bien. Donc, un rendez-vous à ne pas manquer.
Vous écoutez l'émission Autour du Livre avec Annick sur RTVFM.
Alors notre deuxième invité donc de la soirée, c'est Annick Bessac, auteure de romans à suspense, et elle va à travers cette interview que nous allons écouter nous parler de son cheminement qui l'a amené de l'écriture à l'édition. Je vous laisse écouter cette interview. Annick Bessac, bonjour.
Bonjour.
Alors Annick Bessac, vous êtes née à Avignon.
Oui.
Vous avez vécu une partie de votre vie à Lille-sur-Sorgue dans le Vaucluse. Et vous êtes actuellement à La Roque-sur-Perne, un village tout proche de Carpentras.
Oui, j'y habite depuis une trentaine d'années maintenant.
Vous avez écrit donc, Annick Bessac, vous avez écrit deux livres, à ma connaissance, hein, La Louve, qui est paru en 2011, et Parfum dans colis, en 2013, aux éditions Noir au Blanc. Et vous avez, j'ai vu ça sur le journal, vous avez été présélectionné par le district sud-est du Lions Club pour le prix de littérature 2014 pour ce deuxième livre, Parfum dans colis.
Oui, mais j'ai eu le prix du Lions Club, justement, sud-est, pour ce livre. Il est passé entre les mains de différentes personnes qui font partie de cette association et il a été sélectionné parmi plusieurs livres. Il y avait quand même une présélection de... Il fallait qu'on soit des auteurs locaux, avec un éditeur local, et puis qu'on parle de quelque chose qui se passe dans la région, ce qui est le cas pour mes livres.
Alors, deux livres que moi j'ai lus, et que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à lire, parce que alors j'y ai découvert du suspense, j'ai eu du mal à faire des pauses, et j'ai lu Le Parfum dans colis d'une traite, donc je sais pas, ça fait à peu près deux, trois heures. C'est un livre donc qui m'a tenu en éveil et curiosité jusqu'à la dernière page. Et en ce qui concerne La Louve, je l'ai lu en deux fois. Donc j'ai dévoré vos livres, deux histoires passionnantes. Alors avant de parler plus longuement de vos deux livres, je voudrais donc que vous nous partagiez votre parcours qui fait que vous en êtes là aujourd'hui.
J'ai toujours voulu écrire. J'ai toujours voulu et j'ai toujours raconté des histoires. Donc j'étais enseignante, je racontais des histoires oralement bien sûr à mes élèves. Et depuis toute petite, j'écris. J'ai commencé à écrire, je crois, le premier petit texte, je devais avoir 8 ans. Et c'était toujours des petites histoires à suspense. Alors c'est vrai que je devais être un petit peu orientée par les lectures que j'avais à l'époque, parce que comme beaucoup d'enfants à cette époque-là, on lisait la bibliothèque rose, la bibliothèque verte, alors il y avait Fantomette, il y avait le Club des Cinq, il y avait Les Six Compagnons de la Croix-Rousse. Et tous ces livres dans lesquels se passait une petite aventure policière m'ont influencée. Et j'ai toujours écrit des petites histoires qui mettaient en scène mes voisins, mes frères, avec un petit suspense à l'intérieur.
Vous aimiez lire, jeune fille, hein, un peu, beaucoup, passionnément?
Alors je vivais avec deux frères et deux voisins. Donc ce n'était que des garçons. Mmh. Et le seul moyen que j'avais de m'isoler, c'était de me plonger dans la lecture. Et je lisais tout le temps, tout le temps. Donc mon père avait une bibliothèque bien remplie de livres, peut-être un peu plus pour adultes, mais c'était aussi souvent des policiers. Et donc je me plongeais là-dedans. Quand je finissais ceux d'enfant, je plongeais dans ceux d'adultes. Mmh. Et j'étais toujours dans cet univers et duquel mes parents avaient du mal à me sortir pour venir faire autre chose. C'était le seul moyen de m'isoler un peu par rapport aux garçons autour de moi.
Donc apparemment donc ces livres, hein, policiers et autres, ont sûrement influencé votre façon d'écrire aujourd'hui.
Oui, je pense que j'ai toujours eu envie d'écrire et toujours eu envie d'écrire des histoires policières ou à suspense, c'est-à-dire c'est légèrement différent. Policière, c'est toujours un petit peu plus, peut-être un petit peu plus violent. Suspense, c'est un petit peu plus psychologique. Mmh. C'est vrai que j'ai lu d'autres choses, bien sûr, en faisant mes études, on lit tous les classiques. Et puis, j'ai lu d'autres livres, des romans qui ont eu des prix. Mais ma prédilection, c'est quand même les romans à suspense. C'est-à-dire que si je vais dans une bibliothèque ou si je vais dans une librairie pour acheter un livre, j'aurais tendance à aller vers ce rayon-là.
Alors, dans votre famille, donc vos parents étaient passionnés de lecture, d'écriture aussi?
Non, c'était plutôt la lecture. On était dans un bain de lecture. Et en fait, pour moi, c'était naturel de passer à l'écriture, mais je crois que pour se mettre dans l'écriture, il faut avoir du temps. Mmh. Et il faut avoir l'esprit libre, c'est-à-dire quand on est pris par le travail, la famille et les enfants, on ne peut pas, parce que c'est un monde dans lequel on se plonge et qui coupe tellement de la réalité qu'il faut pouvoir avoir du temps pour le faire.
Oui, ça, je crois que c'est une bonne façon de voir les choses, oui, c'est le temps. Alors, Annick Bessac, quel a été l'élément déclencheur pour justement le passage à l'écriture? Vous lisiez beaucoup, mais qu'est-ce que c'est qui a fait qu'à un moment donné, vous avez eu envie d'écrire?
Lorsque j'ai des enfants, quand j'ai commencé à écrire mes premiers petits textes, c'était pour raconter à la façon du Club des Seigles des choses qui se passaient autour de moi avec mes petits voisins. Donc je les mettais en scène et nous vivions des petites aventures que nous ne vivions pas en réalité à Lille-sur-Sorgue. C'était de la fiction. Le déclencheur qui a fait que j'ai écrit et terminé vraiment mon premier roman, alors que j'en avais commencé plusieurs, c'est que je me suis arrêtée de travailler. Et ça correspond à ce que je disais tout à l'heure. Quand mon mari, mes enfants partaient les uns au travail et les autres à l'école, je me donnais des horaires de bureau dans lesquels j'écrivais. Je passais énormément de temps devant mon ordinateur à écrire.
Et oui, donc on en revient toujours à ce temps qui permet justement d'avoir cette introspection pour pouvoir travailler l'écriture.
Écoutez l'émission Autour du livre avec Annick sur RTVFM.
Alors aujourd'hui, ce soir, je suis ravie d'accueillir dans nos studios un collègue animateur de radio, mais pas que, Gilbert Lèbre, donc de Loris dans le Luberon. Bonsoir Gilbert.
Bonsoir.
Voilà, donc Gilbert est animateur donc d'une émission que vous avez appelée Vinyl Story, hein, sur
Absolument.
Notre radio 102.2.
Oui.
Et donc je m'adresse aux auditeurs, si vous n'avez pas eu encore l'occasion donc d'écouter cette émission, eh bien je vous invite vraiment à le faire parce que c'est un vrai régal pour les oreilles, mais nous y reviendrons tout à l'heure. Alors Gilbert, je vous ai invité donc à cette émission parce que vous êtes un poète, vous aimez les mots, vous avez écrit des chansons, vous êtes auteur-compositeur,
oui.
Vous êtes musicien, animateur de radio,
ah.
Et vous avez écrit des livres.
Aussi.
Voilà. Donc vous, moi j'ai trouvé que dans tout ce que j'ai pu voir de votre parcours, je me suis dit ça c'est un homme qui aime la vie. Oui. J'ai l'impression que la vie l'aime aussi.
Aussi.
Hein? Voilà. Alors Gilbert, eh bien... Parlez-nous un petit peu de vous, de comment tout ça a commencé, comment tout ça s'est mis en place dans votre vie. Par quoi ça a commencé, les chansons, la poésie, les livres?
Oui, ça a commencé il y a déjà pas mal d'années, bien sûr. Et ça a commencé par la poésie, puisque jeune lycéen, j'écrivais des poèmes. J'avais eu le second prix de l'Académie poétique de Provence. Vous m'excusez un peu pour la voix, mais j'ai eu un petit problème de grippe,
bonne grippe.
Dernièrement. Et ensuite, ça a été la musique avec... des concours que j'ai gagnés. J'étais à Avignon avec Mireille Mathieu lorsqu'il y avait un concours organisé par Pathé Marconi qui s'appelait On chante dans la ville, je crois. Et à la suite de ça, j'avais enregistré un premier disque chez Pathé Marconi qui avait été promu par Radio Monte Carlo. Ça avait eu un petit succès. Ensuite, j'ai signé chez Philips où je suis resté 3 ans à peu près. Bon, là, j'étais pas en phase exactement avec l'époque, puisque l'époque, c'était les yéyés, quoi. Hein, et moi, j'étais plutôt...
romantique.
Plutôt auteur-compositeur à texte.
Oui.
Donc, je me suis rabattu sur les cabarets. J'ai fait énormément de cabarets sur Paris. Et ensuite, j'ai pris ma valise et je suis parti voyager. J'ai posé mes bagages il y a quelque temps, mais j'ai passé la plus grande partie de ma vie à voyager, disons.
Voilà. Oui, ça ressort beaucoup dans votre parcours. Alors justement, pour commencer, moi je voudrais que l'on écoute cette première chanson en 1963.
Oula.
Ou peut-être c'est celle de 1966. Vous allez nous dire ça.
S'il ne restait pas grand chose, et s'il ne restait rien du tout, toi, les lilas fleurissent en mai, et je t'ai connu en septembre, tu venais juste d'un été, toi, je te regarde et tu es belle. Toi, ne sois pas ma tour de Babel, mais reste mon éclat de rire, je me déracine par toi. Il y a des fleurs à ta fenêtre, il y a du soleil sur les toits. Un jour, tu me diras peut-être, et ce sera comme autrefois. Ne te méritais pas, si je n'étais qu'un pas grand chose, si je n'étais qu'un rien du tout. Toi, la pluie est tombée sur tes yeux, ou bien alors tu as pleuré, ou bien sûrement la fumée. Toi, regarde, je me perds. Toi, si mon sourire paraît amer, et celle qui ne le voit pas, et celle qui n'y croira pas. Il y a des fleurs à ta fenêtre, il y a des soleils sur des toits. Un jour, tu me diras peut-être, et ce sera comme autrefois.
C'était toi, toi, si tu étais trop belle, de 1966.
C'est une surprise pour moi aussi. Ça, je l'avais oublié.
Tu l'avais oublié.
Ben oui.
Voilà, comme quoi, hein. Il y a des choses qui reviennent comme ça. Oui. Donc, elle est bien, c'est bien 1966.
Oui, c'est 66, oui. Voilà. Absolument.
Donc, les premières en 1963, c'était...
Ça, c'était Pathé Marconi, oui.
Oui. Le cueilleur de galets, vous avez voilà. écrit, et rencontre.
Et rencontre, voilà, hein, c'est ça. Ouais.
Que okay. sur ce disque-là, c'était... Donc, il y avait quatre morceaux. Il y avait El Campeador.
El Campeador, oui.
À les olives et les noyaux.
Exactement.
Si je bois ce soir, et toi
si tu étais trop belle. Pour moi. Ouais, ouais. Absolument. Ouais.
Vous écoutez l'émission Autour du Livre avec Annick sur RTVFM.
L'invité du mois, Aurélien Chaméon. Bonjour Aurélien.
Bonjour Annick.
Alors Aurélien qui nous vient du 04, du village Mison. On dit Mison ?
Oui, on dit Mison, oui. C'est juste au nord de Sisteron, un tout petit village.
Aurélien, vous avez écrit un livre qui s'intitule « Le tour des départements de France à vélo ». Alors je crois que c'est le 7 juillet 2015 que vous avez rangé votre vélo après avoir sillonné un an sur les routes, 19 000 kilomètres et des centaines de rencontres au fil de 96 départements de la France métropolitaine. Je voudrais remercier la responsable de la librairie des Bulles et des Lignes de Pernes-les-Fontaines, hein, qui nous a mis en relation, qui nous a permis de nous rencontrer, qui a organisé une journée dédicace à l'occasion quoi, de votre venue sur Pernes-les-Fontaines. Elle a fait une séance dédicace, c'était le samedi 30 avril. Pouvez-vous nous raconter un petit peu comment tout ça s'est passé ?
Alors ce que j'aime beaucoup dans les dédicaces, c'est justement quand il y a des journées variées. Donc comme vous le disiez si bien, le matin bibliothèque, l'après-midi dédicace, et l'important c'est de mettre en relation plusieurs partenaires locaux, parce que bien sûr la vie dans les petites communes, ce serait impossible sans les médiathèques, sans les bibliothèques, sans les libraires. Et là j'ai tout de suite été séduit par le principe de la librairie donc des Bulles et des Lignes, qui m'a proposé, allez on va diviser votre journée en deux, le matin vous présenterez en conférence toutes vos photos, ou du moins celle que vous choisissez, et l'après-midi on se retrouvera dans un cadre un petit peu plus intime au sein même de la librairie. Donc c'est pour ça que j'en profite justement pour remercier à la fois la médiathèque et également la libraire qui m'ont permis de vivre une très belle journée. Et le matin j'étais donc parti pour à peu près trois quarts d'heure de conférence.
Aurélien, vous êtes enseignant. Vous enseignez quelle matière ?
Alors, je suis enseignant en lycée professionnel et j'enseigne à la fois le français et l'histoire-géographie. Et l'intérêt, bon, c'est un public qui n'a pas vraiment, on va dire, l'occasion de sortir. Donc, dès qu'on peut leur apporter une ouverture, quelle qu'elle soit, c'est toujours bon. Et là, justement, c'est un vrai plaisir de retrouver des élèves après une aventure d'une année, parce que là, on va dire que l'histoire et la géographie, ça leur parlait. C'était vraiment mon quotidien. Tous les jours, je me suis vraiment enrichi à la fois de parcours de vie. J'ai appris également les histoires locales. Et là, c'est vrai qu'ils vous considèrent différemment. Ils voient plus en vous seulement le professeur, mais à la fois un professeur, plus quelqu'un, mais qui peut être n'importe qui, et qui prend son vélo un beau matin pour aller découvrir la France.
Et puis, vous avez enseigné plutôt le côté concret, on va dire, en même temps, de l'histoire et de la géographie, quoi. Le fait de votre voyage dans tous ces départements, vous avez pu en parler plus concrètement. Alors, comment est-ce que vous vous êtes organisé pour prendre une année sabbatique, une année sans exercer votre profession ? Comment ça s'est passé, ça ?
Alors, au niveau du budget, déjà, je m'étais créé un compte spécifique pour l'aventure, parce que je voulais donc ne dépendre d'aucun sponsor. Ça me laisse vraiment une vraie liberté dans mes déplacements du quotidien. Et si c'est pour en plus rouler avec des pancartes dans le dos, non merci, ça perdrait beaucoup de son éthique. Donc un budget que j'ai réussi à compléter sur 2-3 ans à peu près, et qui a pu couvrir l'intégralité du voyage. Et après, au niveau strictement professionnel, j'ai juste informé le rectorat pour leur dire ben, je prenais une année sans solde. monde. La demande, je l'ai faite une année auparavant et c'était bon. Parce qu'en plus, dans ma discipline, lettres, histoire, géographie, c'est pas par exemple comme l'italien ou la musique. Il y a quand même beaucoup plus de professeurs, donc ça posait absolument pas de problème à mon établissement.
Comment l'idée d'écrire un livre a-t-elle germé en vous ?
L'idée, je l'avais déjà avant de partir. Je m'étais dit, quitte à vivre une aventure, bon quand même, pas hors du commun, c'est peut-être un grand mot, mais c'est... Donc hors du commun, si vous le dites hors du commun, je m'étais dit, ce serait quand même dommage de ne pas la faire partager. C'est un témoignage que je souhaitais apporter. D'une part, apporter mon expérience personnelle, ce que j'avais pu vivre au quotidien sur une année. Et le second objectif du livre, c'était de donner la parole à toutes les personnes que j'ai pu rencontrer. Parce que c'est vrai, vous croisez quand même des parcours de vie vraiment improbables que vous n'auriez jamais rencontrés dans un quotidien classique, que ce soit des artisans, que ce soit des personnes qui ont vécu l'histoire. Et ce livre, donc, qui est sorti aux éditions West France, réussit à compiler les deux. À la fois, donc, mon aventure personnelle, les rencontres que j'ai pu faire, et les anecdotes que j'ai pu recueillir.
Vous écoutez l'émission Autour du Livre avec Annick sur RTVFM.
Brigitte Bonjean, bonjour.
Bonjour.
Alors Brigitte, vous êtes de Bédouin.
Oui, c'est ça. Oui, exactement.
Vous habitez depuis combien de temps sur Bédouin ?
Plus de 30 ans. 33 même.
Vous écrivez depuis longtemps. Vous veniez juste de... On vient d'en parler, là. Vous écrivez depuis longtemps. Ça veut dire quoi, depuis longtemps ? Depuis combien de temps ?
Je pense que j'ai toujours plutôt écrit. Même enfant, je partais acheter le pain. Je faisais un roman sur la table à ma maman pour lui signaler que je partais faire une course. Enfin bon, j'ai toujours aimé écrire et un peu retracer, enfin garder un journal intime très longtemps.
Et à quel moment vous est venue l'envie d'éditer un de vos ouvrages ? Quel a été cet ouvrage ?
L'édition à proprement parler, c'est assez récent. Au départ, le support était plutôt sur Internet pour une association sportive qui m'a ouvert quand même les portes de l'écrit avec des rubriques concernant les voyages. Et puis, l'écriture s'est développée par la suite.
Alors, vous avez écrit combien de livres, de carnets de voyage ? Vous en avez écrit plusieurs, hein ? Vous avez fait plusieurs voyages ?
Oui, des voyages, oui, beaucoup. Beaucoup, oui. Des carnets de voyage, en fait, sur le site donc qui est visible sur Internet de Sud Raid Aventure. De nombreux carnets sont écrits de ma main sur de multiples pays, l'Europe de l'Est, la Tunisie, le Maroc, le Portugal, l'Espagne, des rencontres en France aussi. Voilà, mais beaucoup de pays quand même où Sud Raid Aventure est allé poser ses crampons parce qu'on est souvent donc en 4x4. Et puis, donc ça, c'était le départ des publications. Et puis, à l'occasion, en 2014, à l'occasion des 10 ans du RAID Patient Désert, j'ai monté un projet d'un album écrit et illustré de photos pour les 10 ans de ce RAID, donc pour Sud RAID Aventure. Ça a été ma première réalisation écrite papier. Et puis ensuite, des carnets de route pour les années suivantes, jusqu'en 2017.
Alors là, vous avez donc écrit un livre qui se compose de nouvelles, Les pensées de ma plume. Alors, aux éditions
C'est une auto-édition, mais aidée par M. Tison de Oxylivre. Donc c'est par connaissance que je suis arrivée vers ce monsieur qui m'a aidée, soutenue jusqu'à la réalisation finale, qui m'a aidée pour la mise en page, pour la photo de couverture, parce que j'avais des idées assez précises. Je voulais qu'apparaisse en filigrane le Mont Ventoux, puisqu'il y a une des nouvelles dont l'action se passe vraiment sur le Mont Ventoux. Voilà, des petites choses comme ça. Donc ce monsieur Tison m'a aidée. Et puis le livre a vu le jour grâce à Oxylivre.
Donc vous dites que dans Les pensées de ma plume, donc dans cet ouvrage, il y a une des nouvelles où vous parlez plus particulièrement du Ventoux.
Oui, il s'agit de Le sourire de Lucienne. C'est une nouvelle très, très riche sur le plan sentimental et affectif. Déjà parce qu'au départ, l'inspiration initiale est liée à une relation d'amitié que j'ai avec un couple de personnes âgées. Et j'ai écrit sur eux, en fait, sans que ce soit vraiment eux. L'inspiration est née de notre amitié. Et j'ai décrit un peu ce voyage, cette montée au Mont Ventoux, qu'on découvre petit à petit et que le lecteur fait en leur compagnie jusqu'au bout. Jusqu'au sommet, en fait.
Jusqu'au sommet du Ventoux.
Vous écoutez l'émission Autour du Livre avec Annick sur RTVFM.
Le chant d'amour d'un illuminé de Abraham Lancry. Bonjour Abraham.
Bonjour Annick.
Alors Abraham, pourquoi
comment ce titre, Le chant d'amour d'un illuminé, c'est quand même pas un titre commun?
Non, c'est pas commun parce que ce qui m'est arrivé non plus n'est pas commun.
Ah. Alors racontez-nous.
Eh bien, ma recherche a commencé il y a déjà 40 ans, ou même un peu plus. Mais disons qu'il y a 40 ans, il s'est passé déjà quelque chose. J'avais tout abandonné en France et j'étais parti à la recherche de ma vérité. Parce que les vérités...
Il y en a plusieurs.
Voilà, il y en a des millions et chacun a la sienne. Et finalement, on ne s'y retrouve pas vraiment. Donc j'avais besoin de me retrouver seul. Et donc c'est sur les chemins du Népal, dans un trekking, que là j'ai reçu ce qu'on appelle un satori, un début de réveil. Mmh. Vous voyez. Et à partir de là, bon, j'ai fait des recherches plus tard. Et puis finalement, j'ai été appelé par... disons que c'était déjà un début de concrétisation de ma recherche. Mais... Mmh. C'était pas ça. Et finalement, j'ai passé plusieurs années dans un groupe spirituel, plutôt religieux, et où j'ai approché un petit peu de ma profonde recherche. Et c'est seulement quand j'ai quitté ce groupe, il y a déjà maintenant 20 ans, que je suis allé vivre dans les Alpes de Haute-Provence, dans une maison très éloignée de toute vie, hein, vraiment. C'était très isolé, et là, j'ai pu commencer à entrer en moi-même profondément.
Vous avez vécu un petit peu en ermite?
Oui. D'ailleurs, dans le dernier livre que j'ai écrit, le personnage est un petit peu un ermite. Hein, il s'appelle lui-même un ermite. C'est une image de ce que j'ai vécu, mais en fait, il s'est passé d'autres choses. C'est que quand nous avons quitté les Alpes de Haute-Provence en 2010, nous sommes venus à Vaison-la-Romaine et là, j'ai eu une crise cardiaque assez grave. Et puis, une seconde crise cardiaque quelques temps après, avec des stents et des choses comme ça. Et à la fin de l'année, le docteur m'avait donné 9 médicaments en me disant qu'il fallait que je les prenne jusqu'à la fin de mes jours. Il n'y avait pas d'espoir de guérison, et si j'arrêtais, eh bien, je risquais un nouvel infarctus ou un AVC. Bon. Donc, à partir de là, moi, je me suis dit, j'ai pas l'intention de continuer comme ça. En 2011, enfin, j'ai commencé la nutrithérapie. Vous voyez, un petit peu la parole
de... Une autre façon de se soigner.
Voilà.
Plus naturel.
Voilà, quelque chose qui va plus profondément dans l'être.
Oui.
Et non pas...
Plus en accord avec vous, quoi.
Voilà, plus en accord avec moi-même. Donc je suis devenu végétarien à ce moment-là, un petit peu très strict. Et puis j'ai considéré qu'au bout de 2 ans, j'avais rencontré aussi le docteur Jean-Pierre Willem. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est quelqu'un qui a maintenant de la bouteille. Hein, il a écrit un ouvrage qui s'appelle « Le médecin aux pieds nus ». Et il a fait beaucoup de recherches et maintenant, c'est vraiment une grosse pointure. Donc il m'a dit « En 3 mois, je vais vous guérir ». Bon, il ne m'a pas vraiment guéri. J'étais déjà sur le chemin de la guérison. Et en 2012... Eh bien, bon, ça allait beaucoup mieux. Et j'ai décidé d'arrêter tous les médicaments. En 2013, j'ai eu à nouveau un petit problème de ce qu'on appelle une... comment on appelle ça, les battements des oreillettes qui deviennent fous, qui battent jusqu'à 400 battements minute. Et là aussi, le docteur m'a dit, mais c'est de votre faute, vous devez faire attention, vous devez reprendre tous vos médicaments. Oui, j'ai pas repris mes médicaments. Et je suis entré, disons, réellement en état de mort clinique. Et c'est là que j'ai découvert l'esprit. Et à partir de là, c'était donc en 2014, ma vie a totalement changé parce que j'ai repris l'écriture, j'ai repris des ouvrages que j'avais commencé déjà il y a plusieurs années, et on m'avait proposé des éditions qui ne me convenaient pas. Vous voyez, mais parce que l'esprit était derrière, et cet esprit, eh bien, voulait que j'écrive des choses beaucoup plus en adéquation avec ce qui allait se passer, et ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire qu'on a beaucoup changé, la planète est en train de changer, oui, les tricheurs sont découverts. On va pas pouvoir continuer à vivre dans ce mensonge dans lequel, voilà. Donc à partir de 2014, eh bien, ma vie a totalement changé et depuis, j'essaye de revivre d'une manière plus correspondante avec ce que je sens en profondeur, c'est-à-dire l'amour.
Vous écoutez l'émission Autour du Livre avec Annick sur RTVFM.
Nadia Bergougnou, bonjour.
Bonjour.
Alors Nadia, 6e édition du Salon du Livre, c'est une belle expérience, ça, une belle aventure.
L'enfant grandit, oui, c'est la 6e année que nous proposons le Salon du Livre de Morières et qui se bonifie chaque année. Nous sommes ravis. Cette année, nous avons atteint un nombre de visiteurs important. Donc ravis pour les auteurs, ravis pour mon équipe au fil des mots qui s'est donnée à fond pour que ce salon soit une réussite. Ravis, tout simplement.
Alors une 6e édition, donc à Morières-les-Avignon. Qu'est-ce que Nadia, qu'est-ce que c'est qui vous a insufflé cette envie de créer ce salon du livre ?
Ben d'abord c'était l'écriture, puisque j'ai commencé à écrire en 2007, j'ai édité un premier roman, j'en suis maintenant à 5 livres édités et je me suis dit que dans notre beau département, il n'y avait pas beaucoup de salons et surtout qu'il n'y avait pas de salons qui proposaient aux auteurs régionaux de venir présenter leurs œuvres. Et nous avons des auteurs régionaux qui écrivent très bien. C'était d'une façon un tremplin pour eux. Et je peux vous dire qu'au niveau des inscriptions, on a été obligé d'en refuser beaucoup. Parce que voilà, c'est une occasion de leur donner la parole et de montrer que le livre existe toujours.
Ça, c'est très important, surtout à notre époque, où le numérique prend beaucoup de place. Alors, combien d'auteurs, donc, sur ce salon ?
Cette année, nous en sommes à 48 auteurs. Pas beaucoup moins que les premières années, où nous avions une 60aine d'auteurs. C'est volontaire. Hein. Mmh. C'est volontaire parce que trop d'auteurs tuent l'auteur. Et donc là, ça permet aux gens bien de pouvoir échanger, de pouvoir s'arrêter, de pouvoir décider par eux-mêmes, sans qu'il y ait trop de choix qui fait qu'ils ne savent plus quel livre prendre. Donc 48 auteurs, un thème. J'ai voulu mettre un thème cette année à ce Salon du Livre, c'est « Auteurs sans frontières ». On vit dans un monde qui est de plus en plus compliqué, où on nous dit que les frontières n'existent plus, mais j'ai l'impression que si elles sont plus physiques, elles sont morales. C'est un monde compliqué, c'est pas celui que je voudrais laisser à mes enfants. Et donc, voilà, j'ai voulu choisir des auteurs qui nous donnaient de l'espoir, qui nous parlaient de l'autre, apprendre à connaître l'autre, par la lecture, par l'échange, et je crois qu'on y est arrivé.
Bravo. Donc c'est sur une journée, ce Salon du Livre, hein, donc la journée du dimanche 14 octobre. Donc sur une journée, bon, de nombreux auteurs, des maisons d'édition,
donc Élan Sud qui est depuis le début avec nous, également Nombre 7 qui est notre partenaire, qui est également un éditeur. Donc Nombre 7 qui nous permet d'avoir les affiches, les flyers. On a de nouveaux sponsors aussi, Cultura qui nous suit, Botanique qui nous a prêté les plantes qui sont dans le salon, la cave de Morières que je tiens à remercier aussi puisque c'est grâce à eux que nous pouvons offrir l'apéritif à nos invités et aux auteurs. Et puis terminer par la mairie de Morières sans qui rien ne se ferait. C'est eux qui nous prêtent les locaux, des locaux magnifiques. L'espace Follard, c'est un lieu magique qui se prête tout à fait à ce salon. Là. Voilà, ouais, exactement.
Alors, un parrain, l'année dernière, c'était...
L'année dernière, c'était Errant, donc un dessinateur qui nous a rejoints cette année, donc qui est revenu parmi nous. L'année d'avant, c'était Jacques Salomé. Nous avons eu le plaisir, le grand honneur de l'avoir encore toute cette journée. Et la marraine de ce salon 2018 est Rachel Kahn, une comédienne, une athlète de haut niveau qui a été championne de France du 60 mètres en salle, qui a écrit 2 livres. Noir n'est pas mon métier, donc c'est un livre coécrit avec d'autres auteurs. ça rentre tout à fait dans le thème, puisque ce qu'elle veut expliquer, c'est que ça n'est pas parce qu'elle est une femme de couleur qu'il faut l'employer uniquement dans les métiers un petit peu simples, on va dire. Voilà, les grandes et les petites choses aussi, où elle raconte la difficulté qu'elle a eue à, tout au long de sa vie à se faire accepter en tant que femme de couleur. Donc ce sont des thèmes qui me sont importants. Voilà, ravie de l'avoir reçue aujourd'hui.
Alors d'autres petites choses, Nadia, que vous auriez voulu partager avec nous pour justement parler de cette sixième édition, donc de ce Salon du Livre.
Comme chaque année, je suis ravie de retrouver des auteurs qui sont là depuis le début. Donc sans eux, on ne pourrait rien faire et je les en remercie. Je pense que c'est un salon auquel ils sont attachés. Nous essayons également de proposer au public de nouvelles lectures. On y a réussi également cette année. Ce qu'on espère, c'est que au fil des ans s'améliorer et que le salon de Morière soit vraiment connu et reconnu voilà dans la région.
Ouais. Merci beaucoup Nadia.
Merci à toi. Au revoir.
Vous écoutez l'émission Autour du Livre avec Annick sur RTVFM.
À ne pas manquer donc ce rendez-vous autour du livre. L'Antre des livres à Orange, un événement que l'on retrouve chaque année depuis 11 ans. Et voici donc là pour ce mois de mai, 10, 11 et 12 mai, la 12e édition. Donc c'est un rendez-vous convivial hein, pendant 2 jours et demi. Des rencontres avec des éditeurs, auteurs, illustrateurs, des dédicaces, des animations autour de l'écriture et de l'illustration pour tous les âges, donc des tables rondes. Voilà, vous pouvez donc venir aussi avec les enfants, c'est même recommandé. Pourquoi ? Eh bien pour y découvrir des éditeurs, auteurs, illustrateurs contemporains, pour les initier aussi à l'univers du livre, hein, grâce à une programmation pensée pour eux, avec des ateliers, des lectures et des animations, pour approfondir aussi des notions étudiées en cours grâce aux tables rondes d'auteurs, de professionnels, et aussi donc pour les guider dans leur orientation grâce aux rencontres donc avec des professionnels de la chaîne du livre. Voilà pour l'Antre des livres, festival de l'édition indépendante qui va se dérouler sur Orange le 10, 11 et 12 mai. Merci chers auditeurs et auditrices pour votre précieuse écoute. Au mois prochain, bonne fin de soirée.